C'est parti pour le, je crois qu'on est maintenant le 10e épisode. C'est une victoire. Bravo Jean-Baptiste. Bravo Nathan.
Ça avance, hein. Ça avance bien.
Et je viens de regarder les stats. Je suis quand même assez fier. On a plus de 1000 vues en tout. On a 18 personnes qui ont appuyé sur le bouton follow sur Spotify. Donc merci à ces 18 personnes. Et voilà, les 2 derniers épisodes ont eu genre 200 vues chacun. Donc mine de rien, je trouve pour 10 épisodes et relativement peu d'efforts, je suis assez content de là où on est. Et ouais, je pense que ça continue de développer comme ça. Donc très 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 content, voilà, high level comme
Oui,
ça.
c'est bien de voir que la persistance marche. Ça se vérifie très souvent quand même.
C'est ça.
Mais ouais, souvent juste le simple fait de continuer nous amène quelque part. Donc
Et c'est un
on
peu
va
le thème du
voir.
dernier podcast, donc c'est parfait d'avoir ça comme preuve. Pour follow-up aussi sur le podcast d'avant-avant, sur l'histoire de Tom qui nous racontait qu'il a levé, enfin, augmenté les prix de sa boîte et à quel point ça a marché. Et je disais que je voulais faire pareil pour ma boîte, et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et ça s'est super bien passé. Donc voilà, le MRR a vraiment plus ou moins doublé.
Tu pourrais rappeler rapidement exactement c'était quoi ce que tu as fait, quel levier t'as touché?
Ouais, donc on avait deux trucs, c'est qu'on avait plein d'utilisateurs qui étaient sur des anciens prix, donc qui payaient peut-être 7 par mois, 10 par mois, des choses comme ça. Et donc d'habitude quand on lève les prix, disons moi mon concept c'était toujours dire bah t'augmentes que le prix pour les nouvelles personnes et les anciens restent sur l'ancien prix. En anglais on dit grandfathering. Et là Tom disait bah t'es pas obligé de faire ça, tu peux aussi augmenter les prix des autres, des gens qui étaient là avant. Et le but c'est juste de gérer ça bien, dans le sens que si quelqu'un se plaint, bah tu dis bah je comprends et tu les laisses sur l'ancien prix. Enfin, juste tu veux pas te faire d'ennemis, mais pour la plupart des gens, c'est en fait complètement OK. Et donc, on a fait ça, c'était le premier levier, donc juste augmenter les prix. Maintenant, on est à 21 par mois. Et donc, toutes ces personnes qui payaient avant 7, 10, 12 ont été augmentées à 21. Et la deuxième chose, c'était d'enlever l'essai gratuit et d'être un petit peu plus intelligent dans le pricing. Plutôt que d'avoir des paywalls partout quand tu touches l'application, de dire tout est gratuit dans l'application, tu peux tout utiliser, tout est unlocked, entre guillemets, et tu es juste limité dans le nombre de messages audio que tu peux envoyer. Parce que du coup, pour contexte, voilà, vocal, une application de messages audio par email. Et donc maintenant, les gens sont limités à 20 messages. À partir de 10 messages par mois, on te montre une petite paywall qui dit voilà, tu peux envoyer encore 10 messages et après ça bloque. Et en fait, la conversion est restée complètement la même. Sans free trial. Et avec le free trial, on a souvent ce problème que les gens vont faire un free trial et puis en fait, au moment de payer, 7 jours après, c'est declined. Et ça, maintenant, il n'y a plus du tout comme souci. Donc, je crois que ça a
Ah, donc
et augmenté.
la
Vas-y.
conversion vers le free trial est la même, mais enfin, le free trial, il faut compter les deux conversions,
C'est ça.
celle vers le trial et celle. Donc c'est pas la même.
Voilà.
Donc les deux.
Donc, ouais, ça a augmenté. Ouais.
Okay.
Donc voilà, super super content, et comme je te disais avant le début du podcast, c'est ce qui fait plus ou moins la différence pour moi maintenant que je peux en vivre. Et donc voilà, enfin, grâce à Tom, passer de ah je pourrais en vivre probablement l'année prochaine à ah bah c'est déjà réglé cette année.
Je suis
Donc
curieux,
et...
t'avais combien de, à peu près, t'avais combien de personnes sur l'ancien plan et t'as eu combien de gens qui se sont plaints?
on avait, je crois, une centaine de personnes. À qui on a changé le pricing et on a eu 3 personnes qui se sont plaintes.
Ok.
Et c'était même pas des plaintes dramatiques, c'était vraiment des gens qui étaient là, bah écoute, voilà, ça augmente quand même vachement le budget, moi je l'utilise pour envoyer des messages à mon amoureuse ou des trucs comme ça fait pas sens pour moi enfin je suis pas un business use case. Et donc dans ces cas on a laissé, et puis ensuite il y en a eu encore, je crois, 5, 6, 7 comme ça qui ont juste unsubscribe en recevant l'email d'upgrade. Voilà, mais comme on disait dans l'autre podcast, c'est vraiment juste des gens qui n'allaient pas l'utiliser de toute manière, donc pas
Okay.
dramatique.
Non, bah alors bravo.
Ouais, bah, non, je suis super content.
On a aussi un projet qui est un peu plus lent à mettre en place, mais dans le même style avec Oniri qu'on a testé. Moi, j'avoue que j'ai un peu plus peur de nos utilisateurs à Oniri, qui, je pense, bah, déjà sont plus nombreux, mais sont peut-être aussi un petit peu plus jeunes et, au vu des interactions précédentes, n'aiment pas trop payer.
Ouais.
Donc, on verra comment ça se passe.
Non,
Mais
mais un des
on
trucs
va
marrants
essayer quelque chose de
de
similaire.
plus avoir d'essais gratuits, en fait, c'est de réaliser qu'il y a des gens qui, voilà, qui vont juste utiliser l'application et même le jour même dire, OK, c'est cool. Et paf, ils dépensent 200 € pour le plan annuel comme ça. Et c'est un truc que j'avais jamais trop réalisé, mais enfin, ça m'a fait trop plaisir, quoi. Et ouais, je pense que c'est vraiment la différence entre consumer versus business customers. Que les gens sont prêts à payer. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler d'applications mobiles. Et l'idée, c'est de dire, nous, on connaît tous des gens autour de nous qui ont voulu développer une application ou qui veulent développer une application. On a nous-mêmes développé des applications. Et vu qu'il y en a tellement, souvent, on pense que c'est facile à faire. Et l'idée, c'est un peu de debunk ça et d'aller un peu dans les détails de à quoi ça ressemble de développer une application, soit soi-même, soit en travaillant avec une agence. Moi, ma première petite aventure entrepreneuriale à 16 ans, ça avait été de développer une application, justement. Et je m'étais dit, voilà, j'ai 500 €. J'ai trouvé une agence en Inde. On va pouvoir développer un truc et ça va être facile, etc. Et déjà là, c'était voilà, l'aventure comme pas possible. Et donc voilà, donner un exemple un peu de concret à quoi ça ressemble et ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous voulez développer une application vous-même. Ouais. Et le TLDR, c'est plus compliqué que prévu.
Clairement. Moi aussi, ma première aventure en fait entrepreneuriale, c'était de développer une appli, vu que c'était de développer Onirie. Donc, ouais, on a vu, j'ai un peu fait le tour de toutes les manières de développer une application, le faire soi-même, le faire avec des gens pas chers, le faire avec des gens chers, le faire pour des gens. Mais
Ouais, je
ouais.
pense la première chose avec laquelle on peut commencer, c'est s'il faut choisir entre Android et iOS, je ferai juste iOS. Et ça, on l'a vu les deux en termes de qui est prêt à payer. Si ton but c'est de voilà, lancer un truc, avoir des gens qui se créent un compte et qui te payent pour ton application, c'est 100 000 fois plus simple dans l'App Store que le Play Store.
Oui, c'est vrai. Alors après, la troisième option, c'est les choses cross-platform. Mais du coup, pour moi, les deux seules vraies options quand on se lance, c'est soit on part en cross-platform, avec un langage qui nous permet de publier sur les deux en même temps, soit on fait que du iOS. Ça fait pas de sens de faire que du Android au début, enfin, pour la plupart des projets. Le cross-platform a ses avantages et ses inconvénients. C'est souvent moins direct et moins facile de faire des applications comme on a l'habitude sur iOS qui sont souvent assez bien faites, assez jolies, assez fluides, qui suivent les mêmes codes de design. Mais par contre, ça a quand même le gros avantage d'ouvrir directement les deux marchés. Et j'ai eu des bons et des mauvais retours sur le cross-platform. Mais globalement, j'ai l'impression que sur ces 10 dernières années, ça s'est énormément amélioré. Et que maintenant, il y a des outils qui permettent de faire du cross-platform qui sont beaucoup plus puissants qu'avant. Et je pense notamment à un langage actuellement qui est assez en vogue, ça s'appelle le Flutter. C'est un langage de programmation qui est pour les deux, donc c'est assez populaire, mais ça a bien que ses inconvénients et ses avantages. Et il y a une startup qui a développé une sorte d'interface graphique pour créer des applications basées sur le Flutter, qui s'appelle Flutter Flow. J'ai un ami qui actuellement ne connaissait rien au développement d'applications et est en train de faire une application avec Flutter Flow. Et pour l'instant, alors il s'est heurté à beaucoup de murs de qu'est-ce qui est possible de faire ou pas, mais globalement, ça a l'air d'être une solution envisageable.
Ouais, et puis pour les gens qui ne sont pas développeurs, justement, enfin, cross-platform, c'est vraiment cette idée de dire, enfin, à l'origine, il y a un langage de programmation pour l'écosystème Apple, et puis il y a un langage de programmation pour l'écosystème Android. Et du coup, le cross-platform, c'est une sorte de troisième langage par-dessus, qui ensuite traduit tout dans ces deux écosystèmes. Donc, tu codes juste une fois, et ton application est dispo partout. Et nous, par exemple, on a toujours utilisé Flutter, effectivement, dans nos projets. Et je trouve que c'est vraiment excellent. Et puis j'ai entendu aussi parler de Flutter Flow. Ils ont aussi l'avantage que tu peux ensuite vraiment exporter le truc et avoir tout le code source. Donc si un jour tu veux ensuite partir en développement freestyle sans Flutter Flow, tu peux le faire. Ouais, donc grand, grand fan de ce qui a été développé là. Je te rejoins là-dessus.
Donc ça, c'est un peu pour la piste. Je pense qu'on peut peut-être commencer par ça là. C'est si jamais on veut se lancer soi-même, on pourra peut-être parler des différentes personnes qu'on peut payer pour le faire à la place plus tard. Mais donc si on veut se lancer soi-même, il il faut qu'on apprenne quelque chose, soit on apprend le langage Swift, qui est le langage pour développer sur iOS, soit on apprend le Flutter, qui est a priori actuellement la meilleure option pour faire du cross-platform, soit on apprend du Kotlin qui est fait pour Android, mais encore une fois, on le déconseille pour un
Ouais.
début.
Aussi, peut-être, donc, moi je suis un programmeur surtout back-end. J'ai trouvé le Swift assez difficile. J'ai de la peine à m'y faire. J'ai essayé de faire aussi du Kotlin brut et j'ai trouvé très difficile. Alors que Flutter, j'ai trouvé extrêmement intuitif comme langage de programmation. Donc, j'aurais presque tendance à dire pour les gens qui veulent apprendre à programmer, Flutter, c'est peut-être après Python, un des trucs les plus simples. Et ça a l'avantage que ça crée des interfaces. Python, ce serait vraiment plutôt pour des scripts, des choses comme ça. Mais si on veut, voilà, en une ou deux journées, faire une application avec deux, trois boutons et où il se passe un truc, je crois que Flutter, c'est la meilleure option pour ça.
En tout cas, ça a beaucoup de popularité au sein des développeurs, donc c'est plutôt bon signe. Et donc, parlons justement de ce qu'on appelle le front-end et le back-end, parce que ça, c'est aussi un gros point dans le développement des applications, qui peut rajouter beaucoup de complexité ou pas. Donc, il y a ce qu'on appelle le back-end et le front-end. Le front-end, c'est la partie interface, c'est tout ce que l'utilisateur, l'utilisatrice va voir. Et le back-end, c'est le serveur, en gros, c'est toutes les choses qui sont en arrière-plan. Toi, tu es plutôt un développeur back-end à la base, moi plutôt un développeur front-end. On a une vision un petit peu différente sur qu'est-ce qui est plus facile ou pas. Moi, de ma vision un peu de front-end, c'est que quand on veut rajouter des logiques qui touchent plutôt au back-end, on rajoute assez souvent pas mal de complexité dans l'application. C'est-à-dire qu'une application calculette va être 1000 fois plus simple qu'une application où il faut des comptes et des bases de données et tout ça. Curieux d'avoir ton avis en tant que développeur de back-end, est-ce que tu as un peu l'opposé ou...
En termes de qu'est-ce qui rajoute de la complexité, non, c'est clair qu'une fois que tu as typiquement développer une calculette ou alors développer Instagram, le truc, si tu dois tout d'un coup uploader des fichiers qui doivent rester dans une base de données, les afficher dans le front-end, des trucs comme ça, avoir des comptes, pouvoir se déconnecter, pouvoir payer, pouvoir se connecter sur l'iPad et ensuite se reconnecter sur l'iPhone et ça doit être le même compte, c'est clair que c'est 1000 fois plus compliqué. Après, je trouve que toute la partie front-end disons, de gestion de state, d'état de l'application. Donc, ça veut dire typiquement, ta calculette, tu peux être connecté, mais tu dois te souvenir que l'utilisateur a déjà fait un calcul avant. Ou alors, lui afficher l'historique de ses calculs. Ou des trucs comme ça. C'est pas hyper simple et tu dois prendre en compte plein de choses. Voilà, si d'un coup, il n'y a plus d'Internet, de connexion Internet. Tu peux plus synchroniser les données avec ce qui se passe dans la base de données, des trucs comme ça. Donc je trouve que le front est aussi très difficile.
Ouais. Puis le front vient avec un set de challenges qui sont plutôt dans le design et dans l'expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de, on a 1000 manières de faire notre application et il va y avoir beaucoup de décisions à prendre sur comment est-ce qu'on fait telle ou telle fonctionnalité. Et en fait, je trouve qu'une grande partie du travail, ça va être de réfléchir et de concevoir quelle est la meilleure option, la plus simple pour faire tout ça.
Voilà. Mais donc, si on prend quelqu'un qui veut créer une application, souvent, voilà, on a une idée, je sais pas, je prends un exemple tout con que j'ai découvert hier, c'était une application de rencontre, mais basée sur les signes astrologiques. Voilà, vous avez une idée comme ça. Et en soi, vous savez plus ou moins ce que vous voulez un truc un peu comme Tinder, mais à la place d'une description, les gens mettent leur signe astrologique. Voilà. Vous avez peut-être déjà dessiné un logo, un croquis. Si vous voulez pas vous-même vous mettre à développer, ce qui est le cas de beaucoup de gens, et nous on a aussi été dans ce cas, toi pour l'application Android, c'est là que les problèmes commencent généralement. Parce que du coup, donc il faut trouver quelqu'un d'autre pour développer à votre place. Et grossièrement parlant, soit vous allez aller avec une solution pas chère, ce serait de trouver un développeur indépendant qui habite dans un pays moins cher, en Inde, des trucs comme ça. Ou alors vous allez bosser avec une agence. Donc là, à nouveau, il y a l'agence en Inde comme ça qui est moins chère. Ou sinon, il y a l'agence européenne ou américaine où ça va vous coûter environ, j'ai envie de dire, $100 de l'heure, un truc comme ça, plus ou moins 20%. qui vient avec ces sets de challenge. Et je crois qu'on a, nous, on a fait les trois, donc on peut parler de toutes les expériences.
Ouais. Déjà, donc, par rapport à ce qu'on a dit avant, en gros, il faut trois compétences. Il va falloir quelqu'un qui sache faire du design, quelqu'un qui sache faire du front-end et quelqu'un qui sache faire du back-end. C'est possible des fois d'avoir la même personne qui fait le front-end et le back-end, c'est assez rare. Donc, les agences vont avoir toutes ces personnes à disposition. Si on passe pas par une agence, mais par des personnes seules, il va falloir passer par plusieurs personnes seules. Mais ça se fait assez bien parce que c'est des choses, le design se fait d'abord, puis ensuite le développement. Voilà, ça se connecte bien.
Peut-être un truc sur le fait de passer à quelqu'un seul, une compétence qu'on oublie, c'est juste la gestion de projet. Et qui est souvent quand vous-même, vous ne savez pas développer, ça va être. Enfin, c'est ça qui fait que ça devient un labyrinthe et que les gens perdent énormément de temps et d'argent. Parce qu'il n'y a personne qui s'occupe en fait concrètement de la gestion de projet. Et de dire c'est quoi le but final, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller et comment le résoudre. Et s'il n'y a pas. Enfin, c'est ça, disons, la valeur ajoutée d'une agence. C'est d'avoir cette personne au milieu entre les développeurs et le client, donc vous, qui va essayer de traduire vos besoins en quelque chose de clair pour le développeur, pour pas passer des heures et des heures, des semaines, etc., à développer des choses qui font pas sens.
Alors, est-ce que tu conseillerais d'embaucher quelqu'un qui gère le projet? Parce que ça devient vite cher, du coup, aussi.
En fait, je pense, la morale de ce podcast, ça va être ça. C'est que c'est difficile de développer une application pas chère. Et que ça vient, il y a toujours des coûts quelque part d'autre. Si on essaie de développer une application sans. Parce que si on reprend typiquement l'exemple de l'application de rencontre, vous-même, vous savez ce que vous voulez à peu près visuellement. Et encore, il y a des trucs tout bêtes du genre à quoi ressemblent les réglages ou à quoi ressemble le onboarding, la première fois que la personne arrive sur l'application. Et ensuite, à quoi ressemble la logique. De juste de l'algorithme, comment est-ce qu'on match les gens, les choses comme ça. Donc, soit on dit, voilà, j'ai un budget de 50 à 100 000 francs et je bosse avec une agence, mais la plupart des gens n'ont pas cette option-là. Et si on veut aller avec la route la moins chère, dans mon expérience, on se brûle presque toujours les ailes si on n'est pas un développeur soi-même. Et là, moi, ma recommandation, ce serait. Donc, idéalement, vous le faites vous-même avec Flutterflow. Et là, mais du coup, c'est un projet d'une demi-année. Vous apprenez aussi à programmer. Ou alors, en fait, je bosserai que avec un designer jusqu'à avoir une version clickable de l'application qui est complètement finie. Donc, pas un truc juste sur papier, mais où vraiment vous avez réfléchi à tout ce qui se passe de la première fois que je vis l'application, la deuxième fois, à tous les boutons, qu'est-ce qui se passe quand je clique partout. Et ça, à mon avis, je pense qu'on peut le faire pour 5 000 euros avec un designer. Peut-être même moins, en fait. Et qu'on sache, voilà, ça, c'est la version clickable de l'application. À partir de là, je donne ça à un développeur pas cher. Et lui, c'est assez pour qu'il puisse faire son truc. Et évidemment, il y a une partie de confiance où, voilà, j'espère qu'il fera les choses bien dans le back-end parce que ça, je ne peux pas le contrôler.
Ouais, bon, c'est globalement toujours le cas. Effectivement, tu peux pas trop regarder, c'est de la confiance. Et il faut pas s'attendre à ce que ce soit mais tant que ça marche, je pense que c'est pas mal.
Et puis ensuite, il y aura 1 000 problèmes au moment où tu veux rajouter des fonctionnalités parce que voilà, tu réalises qu'en fait, ça a été développé d'une certaine manière. Mais ouais, ça, c'est, je pense, la
Mais
meilleure solution.
un point important aussi, je pense, sur la conception. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent avec des idées très complexes. Et c'est possible de décomposer ces idées. Et il faut décomposer ces idées pour arriver avec une version plus simple du projet, comme première version. Commencer déjà avec des bases stables, mais simples, avant de se lancer dans énormément de choses. Je pense, par exemple, j'ai l'impression que tout le monde doit mettre un chat dans son application. En tout cas, c'était la mode il y a quelques années. C'est souvent pas nécessaire de mettre un chat. Donc, on peut virer le chat et juste faire autrement. Donc, faut un peu décomposer comme ça son idée, réfléchir à quelles fonctionnalités on veut, lesquelles sont les plus importantes, et surtout lesquelles sont les plus compliquées à faire. Ça, on va un peu le découvrir en discutant avec des designers et des programmeurs. C'est aussi bien peut-être de brainstormer avec un programmeur, si vous avez des amis qui font ça, ou même juste payer quelqu'un pour passer quelques heures à discuter du projet, sur la partie conception pure. Ça peut être intéressant. Parce que je pense que le plus important, c'est d'arriver à avoir cette première version. Parce que je vois beaucoup de gens qui, voilà, ont ce projet, ont la motivation, veulent se lancer, puis après, il y a toutes les galères qui arrivent, puis au final, ils abandonnent. Le plus important pour moi, c'est d'arriver à avoir cette première version, et ça fait du bien déjà d'avoir fait quelque chose, d'avoir quelque chose qui est disponible. Mais c'est seulement possible si on décompose l'idée au maximum et qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus simple.
Ouais. Et puis ensuite, donc là, imaginons qu'on a quelqu'un qui a 50 à 100 000 francs ou euros. C'est quoi la version premium? Et est-ce qu'elle résout tous les problèmes ou même pas?
Alors, donc il y a beaucoup d'agences en Europe, aux États-Unis, qui bien sûr vont faire des prix voilà, beaucoup, assez différents. Je dirais que pour une application très simple, on peut peut-être s'en sortir pour 30 000, 40 000 francs slash euros. Ça va souvent monter jusqu'à 80 000. Voilà, ça va dépendre un petit peu évidemment des pays, mais globalement, c'est un peu ces fourchettes-là. Est-ce que ça résout tous les problèmes? Ça en résout pas mal, mais ça résout pas tout. Ce qui est sûr, c'est que la communication sera plus simple, parce que c'est des personnes qui sont plus proches, qui parlent votre langue, et ça joue beaucoup. Ça déjà, ça met plus de confiance, ça aide plus de fluidité, c'est pas mal.
On peut enfin,
Nouvelle,
se rencontrer dans un bureau des fois, il n'y a pas besoin d'être à distance constamment.
voilà. Juste ça déjà, c'est quand même un grand atout. L'autre chose, c'est que au niveau de la qualité pure des développeurs et des personnes qui vont travailler, je pense quand même c'est quand même un niveau au-dessus. Les gens sont en moyenne meilleurs, mais ça dépend le niveau d'expérience qu'ils ont. C'est-à-dire que les agences, elles vont avoir des développeurs et des designers qui ont des années d'expérience et d'autres qui sont juniors et qui viennent d'arriver. Selon les personnes qui mettent sur le projet, voilà, la qualité, elle sera complètement différente. Ce que font les agences, des fois, c'est mettre des personnes plus juniors sur un projet pour diminuer les coûts, pour vous, parce que vous n'avez peut-être pas le budget, et les encadrer par des développeurs seniors. Ça, en général, ça fait qu'on revient sur de la qualité, peut-être assez plus similaire à ce que vous auriez eu avec des développeurs moyens, seniors, des pays moins chers. Donc, la qualité peut être mieux, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend de plein de choses. Et vous pouvez vous retrouver à dépenser 10 fois la même somme pour un résultat relativement similaire.
Là, tu
Donc,
parles de
est-ce que
qualité
ça vaut le
qu'on
coup?
voit vraiment en termes de design qui est bien ou mal fait, ou aussi qualité juste du code, et c'est difficile à mesurer en tant que quelqu'un qui n'est pas développeur.
C'est difficile à mesurer. Je parle un petit peu des
Ça.
deux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va, il y a quand même pas mal de choses qu'on va se rendre compte juste en essayant l'application, sans voir le code. On va voir qu'il y a un truc qui est cassé et tout, mais ouais, je mets plutôt dans le siège de quelqu'un qui va pas voir le code, qui a quelque chose sur le code.
Parce que ce qui est
Donc,
embêtant
est-ce
avec
que ça
les
vaut le
agences,
coup?
c'est que fondamentalement, elles ont juste des intérêts différents. Enfin, l'intérêt de base, c'est de te faire une proposition la plus alléchante possible pour que tu bosses avec eux et pas l'agence à côté. Mais ensuite, eux, en fait, leur but, ce serait que tu les payes et qu'ils n'aient pas besoin de travailler, parce qu'eux, ils ont des coûts fixes d'employés. Donc, tout leur jeu à eux, c'est de essayer de satisfaire en dépensant le moins d'heures de développeurs de leur côté, parce que c'est ça leur coût fixe. Et ensuite, s'il y a des problèmes avec ton application, et bah, eux, ils se retrouvent de plus en plus dans le rouge parce que voilà, ils t'ont promis 100 heures et ils sont à 70 heures de travail. Là, ce serait parfait, ils sont profitables, super. Et ensuite, ils arrivent, ils sont déjà à 80 heures de travail, 90 heures de travail, et tout d'un coup, ils arrivent à 100 et ils commencent à faire de la perte. Et ensuite, c'est là. Ouais, y a plus rien qui joue, et puis soit tu continues à payer par heure, ou soit ils essaient justement de pas te demander de payer plus, mais ça, de leur côté, les oblige à vraiment faire travailler que les juniors. Et ça devient,
Oui,
ouais, très moche.
parce que justement, il y a deux modèles de paiement qui sont les deux. Je ne sais pas s'il y en a un qui est plus utilisé que l'autre, mais les deux sont utilisés. C'est soit l'agence va vous faire payer vraiment un nombre d'heures. Donc, il y passe 10 heures, vous payez 10 heures, point. Soit vous avez un cahier des charges, vous avez quelque chose, vous avez accepté que l'agence allait développer tel produit, telle fonctionnalité, telle chose. Et vous payez une somme pour ça et vous en foutez du nombre d'heures qu'ils dépensent. L'important, c'est que vous arrivez à cette chose-là. Ces deux modèles, et le deuxième modèle est beaucoup plus avantageux pour vous, vu que s'ils n'ont pas fini, bah, ils vont continuer de travailler et vous n'allez pas payer plus pour avoir la même chose.
Mais même là, je mettrais un petit if, c'est plus avantageux en théorie. En pratique, Vu que la réalité, c'est qu'il y a toujours le cahier des charges change presque toujours. Je trouve que c'est des cas où on détruit complètement la relation avec l'agence et où eux, justement, essaient de faire du vite fait comme ça pour se débarrasser de vous. Et alors que si c'est juste très clair qu'on paye par heure, tous les intérêts sont entre guillemets aligned entre tout le monde. Et vous, ça fait que vous êtes aussi beaucoup plus à réfléchir avant de demander un changement. Parce que vous réalisez, ah bah voilà, changer de couleur ce bouton, je sais que ça me coûtait 2 heures, est-ce que vraiment je vais leur demander ça? Alors que si vous avez défini un budget, vous allez être là, non mais changez juste cette couleur, allez, faites-moi plaisir. Et puis l'agence en plus va essayer de vous faire un peu plaisir parce qu'ils sont quand même pas méchants.
Mais et du coup, il y a risque que même si tu ne demandes pas de changement, à tout
Ouais, que ça.
moment, ils
Voilà.
ont mal fait l'estimation et tu te retrouves à le payer deux fois le prix.
Ouais, ça c'est clair. Et donc
Donc,
là,
deux
souvent, la
options.
solution, c'est de juste dire, voilà, on paye à l'heure et puis mon budget s'arrête à 40 000 et à 40 000, j'ai un problème. Et mais après, il y a le risque que, voilà, on finisse jamais
Ouais,
l'application.
avec la moitié, quoi.
C'est ça.
Ce qui est sûr, c'est que c'est des budgets plus conséquents. Et donc, est-ce que ça résout les problèmes? Non, ça ne résout pas tous les problèmes. Et en général, au moins vous avez des idées claires de ce que vous voulez, au moins vous avez d'expérience dans tout ce qui touche aux applications, au plus c'est probable qu'il va y avoir des couacs à certains endroits, des erreurs de communication, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que si vous avez des amis qui ont un tout petit peu d'expérience là-dedans, ou même, mon conseil, ce serait de peut-être payer quelques heures quelqu'un qui a plus d'expérience, qui est calé, pour vous aider à évaluer le travail de l'agence et pouvoir un petit peu aider sur le projet. Parce que c'est vrai que le plus tôt on résout le plus de questions qui pourraient poser problème plus tard, le moins de problèmes on a plus tard.
Et si je dois être même encore plus critique, là j'étais à une conférence la semaine passée, puis il y a eu une session de questions-réponses comme ça avec un entrepreneur, et une des personnes demandait comme ça, est-ce que c'est un problème de lancer mon business de software si je ne sais pas programmer? Et lui, il a été, je crois, beaucoup trop gentil. Pour moi, la réponse, ce serait évidemment que c'est un énorme problème. Si la base de ta value proposition, ce que tu veux offrir à ton client, c'est une application, mais que tu ne sais pas développer, ce serait comme un restaurateur, enfin, quelqu'un qui veut lancer un restaurant, mais qui ne sait pas cuisiner, ou quelqu'un qui veut lancer une entreprise d'avion et qui ne sait pas voler. Enfin, juste le truc fondamental que tu veux apporter à ton client, toi, tu n'en sais rien du tout. Et justement, j'ai l'impression que c'est qu'en software que les gens ont même cette idée de lancer une application sans savoir programmer, ce qui, dans, justement, imagine de lancer une fiduciaire sans t'y connaître en compta, enfin, où ça paraît juste absurde. Et pour être du coup un peu le devil's advocate, je dirais vraiment, fondamentalement, si vous ne savez pas programmer et que vous voulez lancer une application, reconsidérez le projet de base parce que, juste aussi en se disant, qu'est-ce que du coup vous apportez au projet, si ce n'est des fonds, mais si en plus vous êtes incapable de sélectionner qui va être compétent pour développer votre application parce que vous n'avez vous-même pas les compétences, c'est presque toujours voué à l'échec. Et quand je vois les difficultés que nous on a eues en sachant programmer, à développer les applications, je me dis que quelqu'un qui ne sait pas programmer, c'est juste, c'est la fin. Et du coup, d'où l'idée de soit trouver un cofondateur ou quelqu'un d'autre qui sait programmer. Mais sinon, juste très pragmatiquement se dire, OK, peut-être que ma solution, c'est de développer autre chose où j'ai pas besoin de programmer. Ça peut être Shopify ou il y a des applications, enfin, des solutions pour apporter de la valeur ou vous outsourcer la partie technique à quelqu'un d'autre. Par exemple, une amie là qui a lancé sa boîte d'huile d'olive et qui aurait voulu créer son propre site web, mais c'est absurde. Et du coup, tu passes par Shopify et ça te résout tous ces problèmes-là.
C'est vrai que ça va être très difficile. Après, voilà, l'option du cofondateur peut être intéressante aussi. C'est vraiment, si vous croyez en ce projet, vous voulez le faire, entourez-vous de gens qui ont des compétences pour le mener, quoi. Mais c'est vrai que les applications, c'est effectivement assez marrant parce que c'est même pas forcément lié à d'autres business. C'est souvent que on a des idées, bah, tu as très bien, très bon exemple avec les applis de rencontre, sur 1 000 trucs différents, mais il y a aussi, ouais, j'ai vu énormément d'idées passer ces dernières années. C'est vrai que je pense que les gens utilisent des applications, du coup, les gens veulent faire des applications. Mais il n'y a pas vraiment nous, on a des expériences de développeurs, mais il n'y a pas vraiment des gens qui savent au final qu'on a expérience vraiment pure en application. Le projet peut nécessiter d'autres compétences aussi. Ça peut être possible. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez pas, si vous-même ou quelqu'un à côté de vous, n'a pas d'expérience du tout dans les applications, ça va être une route difficile.
Et puis, en fin de compte, il ne s'agit pas vraiment juste de lancer l'application, mais il faut avoir créé un truc que les gens veulent vraiment. Et moi, c'était ça le résultat de ma première expérience de développement d'application. Voilà, j'ai bossé avec cette agence indienne vraiment pour 500 francs. En fin de compte, ils ont développé un site web, un truc très simple, enfin, qui remplissait la fonction. C'était censé être une sorte de truc pour se rencontrer en ligne basé sur des thèmes qu'on a en commun. Une sorte d'application networking en ligne. Et de base, je voulais créer qu'on puisse faire les appels vidéo dans l'application et tout. Mais ça, évidemment, c'est extrêmement compliqué parce qu'ils auraient dû développer une alternative à Zoom, en gros. Et du coup, en fin de compte, c'était vraiment juste une application avec une liste de chat rooms. Et quand tu cliquais dessus, ça ouvrait un Google Meet. Donc, finalement, je suis ravi qu'on ait réussi à le breakdown, comme tu dis, et trouver c'est quoi la proposition de base. Mais la morale, c'est qu'on a lancé le truc. Et moi, je m'attendais à ce que voilà, ça, je vais lancer ma startup, etc. Mais en fait, juste personne n'a utilisé le truc. Et ça, il faut réaliser que l'agence ou le développeur, c'est pas son rôle de créer un truc dont le monde a besoin. Eux, ils vont juste créer ce que vous leur demandez de créer. Et le gap entre créer n'importe quoi puis créer un truc qui a, comme on dit, product market fit, il est énorme. Et ça, en soi, c'est à nouveau une compétence qui met des années à être à acquérir. Ouais.
C'est très vrai. D'où l'idée de réduire les choses au maximum. Si vous voulez vraiment lancer le truc, commencez très petit. Mais même avant, il y a des étapes avant que souvent ces étapes sont négligées, même par tout le monde, par tous les entrepreneurs. Mais ce qu'on entend mille fois dans les salons d'entrepreneurs, c'est qu'avant de faire l'application, il faut l'avoir testé l'idée et les problèmes des gens avant de faire la solution. Donc, il faut faire des Google Forms, il faut envoyer à plein de gens, il faut faire des interviews, ouais, des gens qui pourraient utiliser l'application. Il y a plein d'étapes comme ça qui peuvent être très utiles avant de faire l'application, qui sont hyper importantes. Et quand on fait l'application, il faut un prototype très simple pour pouvoir tester la chose. Encore une fois, aller vers les gens, proposer le prototype, voir ce qui se passe. Puis, ce qu'on appelle un MVP, c'est justement le minimum viable product, c'est le produit, mais avec le minimum de fonctionnalités. C'est pas que pour une question de coût, il faut simplifier tout ça. C'est aussi parce que, enfin, c'est pour une question de coût au final, mais c'est pour vérifier que vous n'allez pas mettre tout votre argent dans l'air, quoi.
Ouais. Et ça, c'est encore un bon point aussi pour moi de dire, en fait, il y a plein de choses où intuitivement on veut développer une application, mais en fait, ça peut être autre chose. Et ça peut être plus simple. Peut-être qu'en fait, la première version de votre projet, c'est une newsletter ou c'est justement un groupe WhatsApp. Et en fin de compte, par exemple, je sais pas, Uber Eats, ça pourrait être un groupe WhatsApp ou ça pourrait être une newsletter. Et donc, mais c'est moche, évidemment, et c'est triste de dire, ouais, mais moi, je voulais faire une application, j'ai pas envie de. Et puis, c'est là où on voit aussi la différence entre les gens qui veulent entreprendre parce que c'est sexy et qui veulent avoir une start-up, versus si tu veux vraiment juste résoudre un problème. Parce que si tu prends l'approche vraiment de, non, je veux juste résoudre un problème pour des gens, et finalement, si la solution, elle est moche et simple, et bah, tant mieux. C'est de ça dont il s'agit. Donc, pour ceux qui sont vraiment sérieux et qui réalise que ça va être compliqué de développer une application. Ouais, regardez ça. Est-ce que l'alternative, c'est pas une newsletter ou un groupe WhatsApp? Et en fait, on a déjà la plupart des use cases dans le monde qui peuvent être résolus par ces deux trucs.
Après, je pense qu'il y a une question intéressante parce que je me demande toujours, ce qui m'intéresse énormément dans un projet, c'est le design et la partie vraiment expérience. J'ai souvent du mal à croire qu'un MVP, un produit super simple, sans le côté tout sexy du design, peut vraiment tester si le produit avec du design va marcher ou pas. Parce que je pense que justement, il manque un gap. Donc, j'ai quelque chose au fond de moi qui me dit qu'il y a quand même un gap. Mais malgré ça, je le ferai quand même de tester avec un produit moche et simple. Et je conseille à tout le monde de le faire. Et il y a un milliard d'étapes à faire. Parce que ça donne quand même une idée. Pour moi, c'est proportionnel, mais c'est pas exact, c'est proportionnel.
Bah, j'ai eu ce débat récemment avec un pote qui, justement, a cet avis-là. Et il disait justement, il y a 10 ans, tu t'en sors avec un MVP, mais aujourd'hui, le marché est tellement plus saturé que c'est vraiment le design et l'expérience et l'interface qui va faire la différence. Et pour moi, c'est juste une excuse pour dépenser plein d'argent et perdre beaucoup de temps à développer un truc joli. Et ouais, et moi, je ne serais pas d'accord. Enfin, évidemment, enfin, l'interface, etc., ça va. Pour moi, c'est plus une question d'optimisation. Mais c'est pas la central value proposition si on prend Oniri. Un truc tout moche, ça fonctionne quand même, c'est moins sympa. On s'attend à ce que les gens vont plus churn, moins payer, mais on s'attend à ce que quand même des gens soient prêts à l'utiliser. Et du coup, pour moi, la
Oui.
version sans joli design versus bon design, c'est juste une augmentation de conversion. Mais s'il y a
Oui.
personne qui paye pour la version moche, j'ai de la peine à imaginer que les gens payent pour la version jolie.
Ouais, bon, c'est pour ça que je dis que je pense que c'est pas égal, mais c'est proportionnel.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et dire que l'interface c'est le game changer, c'est risqué parce que justement,
Tellement
il faut
risqué.
que le game changer ce soit autre chose. Mais c'est vrai que si tu as 10 personnes qui achètent ton produit sur interface moche, je trouve ça raisonnable de penser qu'avec une belle interface, un produit fini, tu peux en avoir peut-être 100, un truc comme ça. Mais voilà, s'il y en a zéro, il y en a zéro. Point. Il n'y a pas de...
Complètement. Et je suis curieux, bah nous, on avait testé une nouvelle application, enfin un nouveau projet de marketplace. Et du coup, on a fait exactement ça. On a dit, en fait, on va pas tout développer. On va juste faire une landing page qui est super jolie pour essayer justement d'avoir l'aspect sexy. Mais en fait, au fond, une fois que tu envoies une commande, bah, tout se passe par email, il n'y a pas d'interface, etc. Et la mort à bord, ça n'a pas marché. mais ouais, je pense que ça aurait pas moins bien marché avec. Enfin, là, dans ce cas-là, je pense que l'interface a eu aucun rôle. En fin de compte. Enfin, quelques gens nous ont dit jolie interface, mais c'est pas les gens qui ont payé en fin de compte. Et les gens qui utilisent l'application, je pense qu'ils s'en fichent de l'interface, dans notre cas. Donc voilà, la réalité sur créer une application. Du coup, on est un peu. On casse l'ambiance.
Du coup, si
On
on fait un
casse plein
récap
de rêves.
de qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu ferais pas?
Si je suis pas développeur, je ne ferai pas l'application. Malheureusement. Et j'apprendrai à développer. Et tu as nommé Flutterflow. Et ça serait le truc à faire. Et si tu n'as pas la patience de passer les 4 mois à apprendre à programmer, tu ne réalises pas la patience qu'il t'aurait fallu de toute manière pour lancer ton application et la développer dans le long terme. Donc, ça ne sert à rien. Et ouais, tu ne peux pas créer un business dans un truc que tu ne comprends pas du tout. Justement, tu peux pas être comptable si tu sais pas la compta. Et tu peux pas avoir une entreprise d'application si tu sais pas faire des applications. Ou en tout cas, une partie du process de création d'application, que ce soit le design, le front-end, le back-end.
Ouais, moi je serais un peu plus mitigé là-dessus. C'est vrai que le parallèle de comptable, pour moi, ce serait plus si tu veux lancer un business une agence de développement d'applications pour d'autres gens. C'est vrai que les applications, c'est quand même souvent. Enfin, quand tu veux faire une application, tu veux pas faire, c'est une application que tu veux faire, c'est ce que l'application elle fait. Ça va être mettre des gens dans une relation, ça peut être enfin plein de choses comme ça. Donc, à la limite, pourquoi pas? Mais c'est important de se rappeler que il vous manque vous partez avec quelque chose en main quoi. Donc t'as fini pour ton conseil, toi ton conseil c'est juste ne faites pas.
Ouais, je crois fondamentalement c'est ça, c'est ouais, apprendre à développer. Et ne bosse pas avec une agence, ça va te coûter beaucoup d'argent et servir à rien. Que ce soit une bonne agence, une mauvaise agence, une agence chère ou pas chère, n'essaye pas d'employer un freelancer parce que tu ne sauras pas l'évaluer et ça sert à rien. Et pourtant, enfin, c'est un truc que j'ai fait. Et du coup, moi, ça n'a pas marché, mais finalement, j'ai appris. Donc, je ne sais pas s'il y a de la valeur dans le fait de perdre de l'argent pour apprendre. Et si c'est ça l'objectif, alors oui, bah, du coup, fais-le. Si tu es prêt à payer pour tes leçons. Mais j'aurais gagné du temps si j'avais juste commencé à développer directement. Ouais, non, c'est ma conclusion pour moi. Ouais. À toi.
Ouais, je suis d'accord avec le fait de s'intéresser, effectivement, d'essayer d'apprendre après. Moi, ce que je conseille, c'est voilà, commencer à vous intéresser à n'importe quel langage que vous allez utiliser, enfin, pour pouvoir un minimum comprendre ce qui se passe. Après, donc si on ne veut pas le faire soi-même, moi, la route que je choisirais, ce serait d'abord, on valide le projet. Avant de faire quoi que ce soit, on fait des Google Forms, on contacte des gens, on fait des interviews et on essaie de se construire un peu une intuition. Ok, il y a peut-être quelque chose.
Mais valider, pour moi, c'est
Donc, ça,
pas juste
c'était.
les gens qui disent ah oui, c'est une bonne idée, parce que ça, vous allez toujours en trouver. Pour moi, ce serait vraiment est-ce
Ouais.
que les gens sont. Est-ce que vous arrivez à créer un groupe WhatsApp ou une newsletter avec laquelle les gens interagissent? Ouais, pardon, vas-y.
Ouais. Non, mais après, quand tu fais les interviews, c'est qualitatif, c'est difficile de juger, mais tu peux essayer de juger un peu. Voilà, tu peux faire des stats. Est-ce que combien de personnes disent qui ou. Enfin, il y a plein de manières de faire. Il y a plein de ressources en
Ouais,
ligne
ouais.
sur comment faire tout ça, comment, quel prix demander aux gens. Enfin bref. Mais en tout cas, il ne faut pas négliger ça. Deuxième étape pour moi, c'est chercher quelqu'un qui a des compétences techniques pour devenir cofondateur. Et là, ça vous aide beaucoup. Mais c'est pas facile. Il faut aussi quelqu'un avec qui vous entendez bien. Enfin bref. Donc pour trouver ça, il y a plein de moyens. Vous pouvez aller voir des écoles qui font du développement, soit des éléments
Et puis,
networking.
fondamentalement, pour moi, du coup, si vous cherchez quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous amenez comme valeur? Enfin, si c'est lui qui va programmer ou elle, et vous faites quoi? Enfin, je vois plein de gens qui cherchent des cofondateurs et ça marche pas du tout parce que cette personne pourrait aller bosser chez Google. Pourquoi elle s'embêterait avec vous? Si en plus vous amenez pas grand-chose à part la partie business, mais on sait pas ce que ça veut dire à ce stade-là dans l'entreprise.
Ouais, ça peut vouloir dire plein de choses, et je suis d'accord que dans certains cas, ça a du sens, dans certains cas, ça n'a pas de sens, hein, mais voilà, je justifie pas que l'idée est
Oui.
bonne, mais juste, si jamais vous voulez continuer, il vous faut quelqu'un de technique,
100%, c'est vrai, voilà.
voilà.
Je suis
Si vous
d'accord.
n'avez pas quelqu'un de technique, là, les choses ont commencé à devenir très compliquées. Dans tous les cas, vous n'allez pas vouloir passer avec une agence européenne parce que, bon, on l'a dit, il y a peut-être 80% de chances, 80% de chances que votre projet tombe à l'eau. Donc, c'est mieux que 500 balles tombent à l'eau que 80 000. Mais donc, vous allez devoir passer avec des agences. Alors, il y a plein de sites. Hein, il y a Fiverr, il y a Freelancer, il y a des agences. Juste, vous pouvez chercher agence indienne développement. Enfin, bref, il y a plein de. Il y a plein de trucs, mais ça va être compliqué. Il vous faut quelqu'un qui est de votre côté pour aider à supporter ce projet, et il faut une grosse phase de conception. Donc, il faut trouver quelqu'un qui soit prêt à passer quelques heures avec vous. Vous allez sûrement les payer, et les payer cher, mais c'est super important. Trouver des designers. Alors, peut-être les designers, trouvez-les en Europe pour que la communication soit plus facile, que justement toute cette partie soit plus facile, parce que c'est la conception la plus importante. Et puis, un développeur qui va vous aider à juger quelle fonctionnalité on enlève, quelle fonctionnalité on garde, tout ça. Et une fois que le projet est très solide, on n'aura pas éliminé 100% des interrogations, mais un maximum, là, on peut, voilà, on part avec une agence ou des freelancers dans des pays moins chers, et on croise les doigts. Et on s'attend à ce que ça va coûter plus cher et prendre plus de temps que ce qu'on avait prévu. Mais on y va, et voilà. Et on publie un truc et on n'attend pas de rajouter un milliard de fonctionnalités. Après, on publie le truc et on regarde si est-ce que ça atteint nos attentes, etc., etc.
Ouais, bah c'est. Ouais, je suis d'accord. C'est la meilleure
Mais en gros, ce qu'il
solution.
faut se dire, c'est que il faut arriver au point où on publie l'application parce que à ce moment-là, le moment où vous publiez l'application, il y a un grand pourcentage de chances que le projet s'arrête. Soit parce que c'était trop galère, vous en avez marre, soit parce que vous vous rendez compte que ça ne marchait pas, soit parce que plein un milliard de raisons. Donc, tout l'argent que vous avez mis jusque-là, c'est comme investir dans des cryptos. Hein. C'est même plus risqué. Donc, ce que disent tout le temps les gens, c'est investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est vraiment ça, quoi. Posez-vous la question, est-ce que je suis prêt à perdre 500 balles ou est-ce que je suis prêt à en perdre 10 000, 20 000, 30 000, voilà.
Ouais. Ouais, c'est en soi, on a fait exactement ça avec Magic ID. On a vraiment développé la première version en 2-3 semaines. Elle était horriblement moche. On l'a publiée, mais on a eu les premières personnes qui ont créé une facture. On a eu une personne qui a payé. Et du coup, on était là, OK, la version moche a quand même rendu. Enfin, on a validé et que les gens la téléchargent. Donc, on arrive à être visible dans l'App Store et que les gens, enfin, une petite minorité, sont prêts à payer et qu'ils l'utilisent aussi. Et du coup, à partir de là, on savait, voilà, bah, on peut aller de l'avant et investir plus d'argent. On a validé le truc de base. Ouais. Non, je pense que ta solution est peut-être un peu plus optimiste. Et je suis
Ouais.
d'accord que s'il faut vraiment le faire, je le ferai comme ça aussi. Ouais. Et les designers, peut-être encore un truc là-dessus, les designers européens ne sont pas si chers. Parce qu'il vous faudrait au grand max 10 heures avec un designer. Vous trouverez facilement un designer qui, en Angleterre, comme ça, à 50 de l'heure. C'est peut-être pas la personne qui a 20 ans d'expérience, mais déjà juste un designer qui a 2-3 ans, qui vient de finir son école. Enfin, ils sont tellement meilleurs que vous que ça suffit. Et ça apporte déjà énormément de valeur. Ouais. Et ça, je te rejoins là-dessus. Donc voilà, il y a de l'espoir. Courage dans l'aventure. Et ouais, on se réjouit de voir votre application dans l'App Store.
Ouais, envoyez-nous si vous avez des trucs, des projets en cours ou aboutis.
Encore un mot de la fin ou on a réussi?
Bon, je pense qu'on a pas mal quoi. On pourra en reparler de ce sujet. Il y a vraiment 1 milliard de choses à dire. Si vous avez des questions spécifiques sur ce process, n'hésitez pas à nous les envoyer. Je continue de voir. C'est ma vie de voir plein de projets émerger, puis mourir, puis ou réussir. Enfin, voilà. Il y a plein de choses à dire et c'est assez intéressant en tout cas
Ouais,
comme monde.
c'est clairement un truc sur lequel on aura plus à le dire. Très bien, merci de m'avoir écouté, et puis alors, au prochain podcast.